Les cinq jours qui ont suivi ont filé à toute allure. Un sommet de l'OTAN à Baden-Baden, en Allemagne, et à Strasbourg, en France. Des discours et des réunions en République tchèque et en Turquie, et une visite surprise en Irak, où, en plus de remercier une assemblée tapageuse de soldats américains pour leur courage et leur sacrifice, j'ai consulté le Premier ministre Al-Maliki au sujet de nos projets de retrait et de la transition qui se poursuivait vers une gouvernance parlementaire. À la fin du voyage, j'avais toutes les raisons d'être plutôt satisfait. À tout point de vue, nous avions fait des progrès. Je n'avais pas commis de bourde majeure. Chacun dans mon équipe de politique étrangère, depuis les membres du gouvernement comme Geithner et Gates, jusqu'à ceux occupant des postes subalternes chargés du travail préparatoire, avait fait un boulot formidable. Et loin de répugner à une association avec les États-Unis, les pays que nous visitions semblaient rechercher notre leadership. Toutefois, le voyage m'a aussi rappelé la dure réalité de ce en quoi consisterait mon mandat, du moins pour une bonne partie, à savoir non pas lancer de nouvelles initiatives, mais éteindre les incendies déclenchés avant ma présidence. Au sommet de l'OTAN, par exemple, nous avons réussi à obtenir le soutien de l'Alliance pour notre stratégie AFPAC, mais non sans avoir au préalable entendu les chefs d'État européens nous dire combien leurs opinions publiques étaient hostiles à une coopération militaire avec les États-Unis depuis l'invasion irakienne, et combien il allait être difficile pour eux d'obtenir un soutien politique pour une aide militaire supplémentaire. Les membres d'Europe centrale et orientale de l'OTAN avaient aussi été troublés par la réaction pour le moins tiède du gouvernement Bush face à l'invasion par la Russie de la Géorgie, et se demandaient s'ils pouvaient compter sur l'Alliance pour les protéger en cas d'agression russe similaire. Il soulevait là une question importante. Avant le sommet, j'avais été étonné d'apprendre que l'OTAN n'avait pas de plan ou de protocole d'action rapide pour être en mesure de défendre tous ses alliés. Ce n'était qu'un exemple de plus des petits secrets peu avouables que je découvrais en tant que président, comme pour l'Afghanistan à la suite de notre enquête et comme le monde entier l'avait découvert après l'invasion de l'Irak, car les faucons de l'administration Bush tels que Cheney et Rumsfeld s'étaient révélés étonnamment mauvais lorsqu'il s'était agi d'accompagner leur rhétorique belliqueuse de stratégies efficaces et cohérentes. Ou, comme Denis MacDonald l'a exprimé de manière plus explicite, en ouvrant n'importe quel tiroir de la Maison-Blanche, on est sûr de tomber sur une nouvelle boule puante. J'ai fait de mon mieux pour désamorcer le problème des pays d'Europe centrale en proposant que l'OTAN développe des plans de défense spécifiques pour chacun de ses membres et en déclarant que, concernant nos obligations mutuelles de défense, nous ne devions pas faire de distinction entre les membres fondateurs de l'Alliance et ceux entrés plus tardivement. Cela allait impliquer davantage de travail pour notre équipe et nos soldats déjà débordés, mais je me suis efforcé de ne pas me faire trop de mauvais sang à ce sujet. Il a fallu que je me répète que tout président se devait de gérer les conséquences des choix et des décisions du gouvernement précédent, que 90% du boulot consistait à naviguer en évitant les écueils dont on avait hérité et les crises inattendues. Et c'était seulement si vous faisiez bien cela, avec discipline et détermination, que vous aviez véritablement une chance de façonner l'avenir. Ce qui m'a inquiété vers la fin du voyage, c'était moins un problème particulier qu'une impression générale. Le sentiment que, pour toutes sortes de raisons, certaines de notre fait, d'autres pour lesquelles nous ne pouvions rien, la vague positive de démocratisation, de libéralisation, de coopération et de rapprochement qui avait déferlé dans le monde entier à la fin de la guerre froide commençait à refluer. Des forces plus anciennes, plus sombres, commençaient à s'amonceler, et les aléas charriés par la mauvaise passe économique n'allaient probablement faire qu'aggraver les choses. Avant la crise financière, par exemple, la Turquie semblait être une nation dans une dynamique favorable, un cas d'école illustrant les effets positifs de la mondialisation sur les économies émergentes. En dépit d'un passé marqué par l'instabilité politique et les coups d'État, ce pays à majorité musulmane s'était largement aligné sur l'Occident depuis les années 1950, conservant sa place au sein de l'OTAN, organisant des élections régulières et s'appuyant sur un système fondé sur le marché, avec une constitution laïque garantissant des principes modernes comme l'égalité des droits pour les femmes. Lorsque Recep Tayyip Erdogan, à la tête du Parti de la Justice et du Développement, s'était hissé au pouvoir en 2002-2003, devenant Premier ministre en défendant des idées populistes et souvent ouvertement islamistes, cela avait perturbé l'élite politique laïque dominée par les militaires. Erdogan avait professé sa sympathie à la fois pour les frères musulmans et pour le Hamas dans leur lutte en faveur d'un État palestinien, ce qui avait fortement inquiété Washington et Israël. Et pourtant, le gouvernement d'Erdogan avait jusqu'à présent respecté la Constitution, honoré ses obligations vis-à-vis de l'OTAN et géré efficacement l'économie, allant jusqu'à initier une série de modestes réformes dans l'espoir de pouvoir un jour répondre aux critères d'intégration à l'Union européenne. Certains observateurs suggéraient qu'Erdogan offrait l'exemple d'un islam modéré, moderne et pluraliste, et une alternative aux autocraties, aux théocraties et aux mouvements extrémistes que l'on rencontrait dans la région. Lors d'un discours devant le Parlement turc et à l'occasion d'un débat public avec des étudiants de l'Université d'Istanbul, j'ai essayé de me faire l'écho d'un tel optimisme. Mais les discussions que j'avais eues avec Erdogan avaient nourri ma méfiance. Pendant le sommet de l'OTAN, Erdogan s'était opposé à la candidature à la tête de l'organisation du très estimé premier ministre danois, Anders Rasmussen, non pas parce qu'il jugeait Rasmussen incompétent, mais parce que le gouvernement de Rasmussen avait refusé de donner une suite favorable à la demande de censure de la Turquie, qui s'opposait à la publication de caricatures figurant le prophète Mahomet en 2005 dans un journal danois. Les protestations en Europe, en appelant à la liberté de la presse, avaient laissé Erdogan de marbre, et il n'a cédé que lorsque j'ai promis que Rasmussen aurait un adjoint turc et que je l'ai prévenu que ma visite prochaine et l'opinion publique américaine favorable à la Turquie seraient fortement compromises si la nomination de Rasmussen n'était pas confirmée. Cela a instauré un schéma qui se répéterait durant les 8 années suivantes. Nos intérêts mutuels, bien compris, imposaient qu'Erdogan et moi tissions une relation de travail. La Turquie comptait sur les États-Unis pour appuyer sa demande d'adhésion à l'Union européenne et obtenir une assistance militaire ainsi qu'en termes de renseignements dans la lutte contre les séparatistes kurdes, enhardis par la chute de Saddam Hussein. De notre côté, nous avions besoin de la coopération turque pour combattre le terrorisme et stabiliser la situation en Irak. Pour ma part, je trouvais le Premier ministre cordial et généralement attentif à mes requêtes. Mais chaque fois que je l'entendais parler, sa longue silhouette légèrement voûtée, sa voix en vigoureux staccato qui montait d'une octave en réaction à divers griefs ou à ce qu'il percevait comme des affronts, j'avais la forte impression que son attachement à la démocratie et à l'état de droit ne tiendrait qu'aussi longtemps qu'il le maintiendrait au pouvoir. Mes doutes sur la pérennité des valeurs démocratiques ne se cantonnaient pas à la Turquie. Au cours de ma halte à Prague, les représentants officiels européens avaient exprimé leur vive inquiétude face à la montée des partis d'extrême droite partout en Europe, constatant que la crise économique stimulait le nationalisme, le sentiment anti-immigrant et le scepticisme à l'égard de l'intégration européenne. Le président tchèque, Václav Klaus, à qui j'ai rendu une courte visite de courtoisie, incarnait certaines de ces tendances. Eurosceptique virulent, en poste depuis 2003, il était à la fois un ardent défenseur de l'économie de marché et un admirateur de Vladimir Poutine. Nous avons eu beau nous efforcer de ne pas aborder les sujets qui fâchent lors de notre conversation, ce que je savais de ses déclarations publiques, il avait soutenu la censure des programmes de la télévision tchèque, voyait d'un mauvais œil les droits gays et lesbiens, et était un climato-sceptique notoire, ne nourrissait pas véritablement mon optimisme quant aux tendances politiques en Europe centrale. Il était difficile de dire si ces tendances seraient durables. Je tentais de me convaincre que ce mouvement de balancier entre des périodes de changement progressiste et de retranchement conservateur était dans la nature des démocraties, y compris en Amérique. D'ailleurs, ce qui était frappant, c'est que Klaus aurait tout à fait eu sa place au sein du groupe républicain au Sénat des États-Unis, de même qu'Erdogan aurait tout à fait pu être un homme d'influence au conseil municipal de Chicago. Cela était-il une source de réconfort ou d'inquiétude? Difficile de trancher. Je n'étais cependant pas venu à Prague pour juger de l'état de la démocratie. Nous avions prévu que j'y prononcerais l'unique grand discours public du voyage, afin d'annoncer une initiative de politique étrangère de tout premier ordre, la réduction des armes nucléaires en vue de leur élimination définitive. J'avais travaillé sur cette question depuis mon élection au Sénat 4 ans plus tôt, et s'il y avait des risques à défendre ce que beaucoup considéraient comme une quête utopique, j'avais dit à mon équipe qu'en un sens, c'était justement cela qui importait. Un progrès même modeste sur la question supposait un projet audacieux et global. Si j'avais espoir de transmettre quelque chose à Malia et Sacha, c'était de vivre libéré de la menace d'une apocalypse engendrée par l'homme. J'avais une seconde raison, plus pragmatique, de me concentrer sur la question nucléaire de manière à faire les gros titres en Europe. Nous avions besoin d'un moyen d'empêcher la Corée du Nord et l'Iran d'avancer dans leur programme nucléaire. La veille du discours, d'ailleurs, la Corée du Nord avait lancé une roquette longue portée dans le Pacifique à la seule fin d'attirer notre attention. Il était temps d'intensifier la pression internationale sur ces deux pays, y compris par la mise en œuvre de sanctions économiques. Or, je savais que cela serait bien plus facile à accomplir Si je pouvais montrer que les États-Unis étaient décidés non seulement à relancer l'action mondiale en faveur du désarmement, mais aussi à réduire activement leur propre arsenal nucléaire. Le matin du discours, j'étais satisfait que nous ayons bordé la question nucléaire avec suffisamment de propositions concrètes réalisables pour que mes paroles ne paraissent pas désespérément chimériques. La journée était limpide et le décor spectaculaire. Une place centrale où le château de Prague, jadis siège des rois de Bohême et des empereurs du Saint-Empire romain germanique, apparaissait en toile de fond. Tandis que la bête cahotait dans les rues étroites, nous sommes passés devant des gens venus par milliers écouter le discours. Ils étaient de tous âges, mais dans l'ensemble, j'ai vu de jeunes tchèques, en jeans, pulls et écharpes, emmitouflés contre le vent piquant du printemps, les visages enflammés et pleins d'attente. C'était une foule semblable, me suis-je dit, qui avait été repoussée par les chars de l'Union soviétique à la fin du printemps de Prague, en 1968. Et c'était dans ces mêmes rues, 21 ans plus tard, en 1989, qu'une foule encore plus importante de manifestants pacifiques avait, contre toute attente, renversé le pouvoir communiste. Cette année-là, j'étais à la fac de droit. Je me souvenais d'être resté collé à mon téléviseur d'occasion, dans mon appartement en sous-sol, à quelques kilomètres de Harvard Square, tandis que je voyais se dérouler ce qu'on appellerait la révolution de velours. Je me souvenais d'avoir été fasciné par ces manifestations et formidablement inspiré. C'était le même sentiment que j'avais éprouvé plus tôt la même année en contemplant cette silhouette solitaire face au char sur la place Tiananmen. Une inspiration identique à celle ressentie lorsque je regardais des images granuleuses des Freedom Riders ou de John Lewis et de ses camarades combattant pour les droits civiques, franchissant le pont Edmund Pettus à Selma. Voir des gens ordinaires aller au-delà de leurs peurs et de leurs habitudes rassurantes pour agir en écoutant leurs convictions profondes, voir des jeunes gens tout risquer pour avoir leur mot à dire sur la vie qu'ils entendaient mener, tenter de libérer le monde des vieilles cruautés, hiérarchies, divisions, hypocrisies et injustices qui entravaient l'esprit humain, cela, je l'avais compris, était ce en quoi je croyais et ce à quoi je voulais participer. Ce soir-là, je n'avais pas trouvé le sommeil. Au lieu de lire mes études de cas pour les cours du lendemain, j'avais écrit dans mon journal jusque tard dans la nuit, le cerveau en ébullition, en proie à des pensées urgentes, à demi formées. J'ignorais encore quel pourrait être mon rôle dans cette vaste lutte mondiale, mais je savais que la pratique du droit ne serait qu'une étape, que mon cœur m'emporterait ailleurs. Tout cela semblait remonter à bien longtemps, et pourtant de mon poste d'observation sur la banquette arrière de la limousine présidentielle, me préparant à prononcer un discours qui serait retransmis dans le monde entier, je me suis rendu compte qu'une ligne directe, quoique improbable, reliait ces deux moments. J'étais le produit des rêves de ce jeune homme, et tandis que nous nous arrêtions sur l'aire aménagée derrière une vaste scène, une part de moi m'a imaginé non pas comme l'homme politique que j'étais devenu, mais comme l'une de ces jeunes personnes dans la foule, non compromis par le pouvoir, non encombré par la nécessité de tenir compte de gens comme Erdogan et Klaus, faisant cause commune uniquement avec ceux qui aspiraient à un monde nouveau, à un monde meilleur. Une fois le discours prononcé, j'ai rendu visite à Václav Havel, le dramaturge et ancien dissident, qui avait fait deux mandats en tant que président de la République tchèque jusqu'en 2003. Ayant participé au printemps de Prague, il avait ensuite été mis sur liste noire sous l'occupation soviétique, ses œuvres avaient été interdites, et il avait été jeté en prison à plusieurs reprises pour ses activités politiques. Havel, plus que quiconque, avait donné une voix morale au mouvement de la démocratie de proximité qui avait mis un terme à l'ère soviétique. Au même titre que Nelson Mandela et une poignée d'hommes d'État, il avait aussi été pour moi un lointain modèle. J'avais lu ses essais quand j'étais à la fac de droit. Le fait qu'il ait su conserver sa probité après avoir accédé au pouvoir avait contribué à me convaincre qu'il était possible d'entrer en politique et d'en sortir l'âme intacte. Notre rendez-vous a été bref, victime de mon emploi du temps. Havel avait un peu plus de 70 ans, mais il paraissait plus jeune. Son attitude était modeste. Il avait un visage taillé à la serpe, des cheveux blonds roux, une moustache soigneusement entretenue. Après avoir posé pour les photographes et dit quelques mots aux journalistes présents, nous nous sommes installés dans une salle de conférence où, avec l'aide de son interprète, nous avons discuté environ trois quarts d'heure de la crise financière, de la Russie et de l'avenir de l'Europe. Il était inquiet à l'idée que les États-Unis puissent croire d'une manière ou d'une autre que les problèmes de l'Europe étaient réglés, alors qu'en réalité, dans tous les anciens pays satellites de l'Union soviétique, l'engagement démocratique était encore fragile. Tandis que se dissipaient les souvenirs de l'ordre ancien et que des dirigeants comme lui, qui avaient tissé des liens étroits avec les États-Unis, n'était plus sur le devant de la scène, les dangers d'une résurgence de tendance illibérale étaient réels. D'une certaine manière, les soviétiques avaient simplifié la désignation de l'ennemi, a dit Havel. Aujourd'hui, les autocrates sont plus sophistiqués. Ils sont favorables aux élections tout en sapant lentement les institutions qui rendent la démocratie possible. Ils sont tout à fait favorables à l'économie de marché tout en pratiquant la corruption, le copinage et l'exploitation qui existaient par le passé. Il a confirmé que la crise économique redonnait vigueur aux forces du nationalisme et de l'extrémisme populiste en Europe. Et s'il était d'accord avec ma stratégie de collaboration avec la Russie, il m'a mis en garde. L'annexion du territoire géorgien n'était que la manifestation la plus visible des démonstrations de force déployées par Poutine pour intimider toute la région. Sans la vigilance des États-Unis, a-t-il dit, la liberté ici et dans toute l'Europe se flétrira. Le temps qui nous était imparti touchait à sa fin. J'ai remercié Havel pour ses conseils et lui assuré que l'Amérique défendrait sans faiblir les valeurs démocratiques. Il a souri et m'a dit qu'il espérait ne pas avoir alourdi mon fardeau. « Votre malédiction, c'est que les gens attendent beaucoup de vous », a-t-il ajouté en me serrant la main. « Car cela signifie qu'ils pourront être vite déçus. C'est une chose dont j'ai l'habitude. Je crains que cela ne soit un piège. » 7 jours après avoir quitté Washington, mon équipe remontait à bord d'Air Force One, épuisée et prête à rentrer à la maison. J'étais dans la cabine avant de l'avion, sur le point de rattraper un peu de sommeil en retard, quand Jim Jones et Tom Donilon sont entrés pour m'informer d'une situation de crise liée à un problème au sujet duquel on ne m'avait jamais interrogé durant la campagne. « Des pirates ?»« Des pirates, monsieur le président », a dit Jones, « au large de la côte somalienne. Ils sont montés à l'abordage d'un porte-conteneur dont le capitaine est américain, et apparemment ils ont pris l'équipage en otage. » Ce problème n'était pas nouveau. Depuis des décennies, la Somalie, un pays de la Corne de l'Afrique, était un état en déroute, morcelé, aux mains de divers seigneurs de guerre, de clans, et plus récemment, d'une dangereuse organisation terroriste baptisée Al-Shabaab. Faute de pouvoir compter sur une économie en état de marche, des gangs de jeunes hommes sans emploi, équipés de skiffs à moteur, d'AK-47 et d'échelles de fortune, s'étaient mis à attaquer des bateaux commerciaux sur le passage maritime très fréquenté qui reliait l'Asie à l'Occident via le canal de Suez, ne les libérant qu'en échange de rançon. C'était la première fois qu'un vaisseau battant pavillon américain était concerné. Aucun élément ne permettait d'affirmer que les 4 Somaliens avaient blessé un ou plusieurs des 21 membres de l'équipage, mais le secrétaire Gates avait ordonné que le destroyer de la marine USS Bainbridge et la frégate USS Halliburton se rendent sur place. Ils espéraient être en vue du navire détourné au moment de notre atterrissage à Washington. « Nous vous réveillerons s'il y a de nouveaux développements, monsieur le président », a dit Jones. « Entendu », ai-je murmuré, sentant s'installer dans mes os la fatigue que j'avais repoussée ces derniers jours. « Ah, et réveillez-moi si des nuées de sauterelles s'abattent sur nous », ai-je repris, « ou la peste ».« Pardon », a fait Jones. « Je plaisantais, Jim. Bonne nuit. »